Alors venons-en aux rapports sociaux et à la domination. Il va convoquer deux notions différentes sur les rapports sociaux. D'une part, des rapports verticaux qui vont être des rapports de classe. Il y aura des choses à dire peut-être sur sa notion de classe, en tout cas, il ne résume pas les prolétaires à la simple question des travailleurs, il y a des questions plus larges de reproduction et de perte ou séparation des moyens de reproduction. Et puis, il va avoir une autre notion qui va être des rapports plutôt horizontaux, c'est ceux qu'on va retrouver plutôt dans la circulation simple ou la production élargie, c'est-à-dire s'intéresser au marché et à la concurrence entre travailleurs et entre capitalistes, et voir comment, finalement, ces rapports donc verticaux de classe et puis horizontaux de marché et de concurrence d'autre part vont contribuer à l'application du pouvoir économique du capital. Pour commencer peut-être.
Peut-être que pour le prendre, parce qu'en fait oui c'est des parties assez denses, c'est où il articule quelque chose d'intéressant. Alors peut-être pour comprendre pourquoi il fait ça, c'est je pense que là aussi il se positionne un peu vis-à-vis de deux autres positions marxistes un peu limitées ou stériles qui sont ou bien une position on va dire un peu classique qui continue de concevoir que les prolétaires sont simplement les travailleurs industriels qui sont dans la production et du coup qui seraient que dans ce rapport vertical de classe, donc qui verraient tout le rapport de pouvoir et de domination à travers ce prisme du lieu de la production, et de l'autre côté les gens qui ont pris le pli, on va dire peut-être plus vert criticien, qui voient tout le pouvoir économique du capital comme étant ce rapport qui lui va décrire comme horizontal, qui serait que tout le monde dominé au capital. Lui, il va essayer de montrer qu'effectivement, le pouvoir du capital s'exerce effectivement sur tout le monde dans des logiques de concurrence, mais que le rapport de classe existe quand même. C'est-à-dire qu'il y a encore un rapport de pouvoir vertical qui structure ce pouvoir. Mais donc, je sais pas si je suis claire, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il essaye d'allier, plutôt que de dire c'est ou bien le prolétariat industriel ou les travailleurs productifs qui forment en fait les gens dominés par le capital, ou bien ce serait tout le monde de manière indistincte qui serait sous la domination de ce sujet automate dont on parlait, il va essayer de montrer comment avec cette théorie des rapports verticaux et horizontaux, il y a un agencement, une articulation un peu plus complexe en fait, et que les deux sont vrais mais à des niveaux différents. Et du coup, il va redéfinir la question du prolétariat plutôt à l'idée de dépendance vis-à-vis du marché, et pas seulement en termes de travail productif. Donc il veut sortir de cette idée que seulement les travailleurs productifs seraient des gens qui sont investis dans des rapports de classe, puisque voilà, il rappelle, et là il est quand même informé un peu de tous les débats sur la question des travailleurs de la reproduction, des gens qui sont hors des circuits productifs ou qui sont hors du salariat et qui constituent en fait le prolétariat aussi. Donc lui va parler plutôt d'un rapport de dépendance pour la reproduction. Dans sa critique du pouvoir, il va critiquer Foucault et Agamben, et puis il va quand même prendre cette idée de la vie nue. Donc ceux que sont les prolétaires, c'est ceux qui sont dénués de tout pour se reproduire eux-mêmes. Et donc dans cette vie nue, c'est cette dépendance vis-à-vis de moyens de production qu'ils n'ont pas et vis-à-vis du marché, et donc du fait de vendre leur force de travail et d'acheter leurs moyens de reproduction, qui en fait les constitue en tant que prolétaires. Et donc ça va être une des manières donc de repenser les rapports verticaux de classe, qui vont plus donc être des rapports strictement cantonnés à la sphère productive, soit manufacturière ou industrielle, comme on l'a vu de nombreuses fois.
Sur les rapports verticaux, il dit ça en une phrase assez simple. En fait, il dit que la contrainte muette, donc là ici dans le cadre des rapports verticaux, ne fonctionne que parce que, alors il dit le travailleur, mais on pourrait dire le prolétaire au sens large, veut vivre. Donc en fait, ça a l'air évident, c'est-à-dire tout le monde, enfin, quand on parle d'aller au boulot, c'est ça, il faut bien de l'argent pour vivre, etc. Mais le fait qu'il y ait cette notion de vie et qu'on ait vu juste avant la rupture, pas la rupture métabolique, mais que ça s'insère justement dans les conditions d'accès à la reproduction, on voit bien qu'il y a une domination verticale à ce niveau-là qui est assez large. Et tu parlais de Foucault juste avant, il a aussi quelques mots intéressants sur la biopolitique en disant justement que ça peut être compris comme une réponse à la séparation radicale qui est au cœur des rapports de production capitaliste, donc séparation des conditions de reproduction, il faut bien que ce soit organisé, prise en charge ici par l'État. Donc il se rapporte aussi à toutes ces notions-là de manière assez intéressante.
Quand il parle de Foucault, il dit, Foucault, il comprend très bien plein de rapports, micro-rapports de pouvoir, même de contraintes. En fait, il a une idée aussi de la contrainte qui existe, mais il n'est pas capable de nous expliquer pourquoi des travailleurs vont se pointer sur le marché ou vont se pointer sur le lieu de production. C'est-à-dire que il voit pas une contrainte encore plus fondamentale, parce qu'il a pas une théorie aussi de la propriété ou l'absence de propriété, et donc lui il essaye d'expliquer à un niveau encore plus fondamental, donc de la reproduction de la vie, pourquoi librement le travailleur va se présenter soit sur le marché, soit sur le lieu de travail. Donc c'est ça la contrainte la plus fondamentale à tous ceux qu'ensuite Foucault peut très justement analyser par ailleurs.
Et peut-être pour revenir dans cette typologie rapport verticaux et horizontaux, du Camille a dit l'essentiel sur l'apport verticaux, mais je voulais juste insister sur au moins deux aspects. Le premier, c'est que cette séparation du travailleur avec les moyens de sa survie, de ses conditions d'existence comme étant la base de la prolétarisation et pas l'activation dans la sphère de la production en tant que travailleur productif, ça lui permet d'étendre sa catégorie de classe à l'ensemble des sans réserve, mais aussi ça permet du coup de comprendre la manière dont cette séparation est fondamentale et première et logique, d'une manière aussi très large, parce que du coup, pour que les travailleurs salariés se pointent au boulot, ça veut dire que non seulement eux doivent être privés de toute forme de moyens de reproduire leur existence, mais que tout leur entourage, leurs proches, leur communauté, qui pourraient subvenir à leurs besoins, soit dans le même cas. Du coup, pour avoir un certain quantité de travailleurs salariés qui se pointent au taf, il faut que une quantité encore plus grande d'individus qui soient prolétarisés. Donc, la compréhension même de l'accumulation primitive au sens historique et de au sens logique de la nécessité de cette séparation pour produire les classes qui ensuite assureront la valorisation de la valeur, elle est aussi élargie, et c'est là que ça lui permet de faire rentrer, d'une part, tout le travail du féminisme marxiste sur la reproduction sociale, le travail domestique, etc. Mais aussi de s'opposer à, pour revenir dans cette vision vert critique qui considère uniquement le sujet automate du capital, que le capital, sur le marché, quand il se pointe pour assurer sa valorisation, il faut qu'il trouve le prolétaire en face. Et donc, logiquement et historiquement, cette question de l'existence des classes comme précondition à la valeur est première. Ça ne veut pas dire que toute société de classe organise la production et le travail et la reproduction d'ensemble selon la logique sociale de la valeur, mais que par contre, il faut bien qu'il y ait des classes pour que la valeur et la marchandisation s'imposent à l'ensemble des sphères de la vie, et que donc le travail lui-même devienne une marchandise. Donc cette question de la prolétarisation est vraiment centrale chez Mao, c'est ce qui lui permet, à mon avis, de faire exactement ce que disait Camilla, de réduire et même de renouer d'une manière intéressante et productive la question des rapports verticaux, donc ceux de la classe, et des rapports horizontaux auxquels on reviendra après sur la question de la valeur et de la concurrence.
Il dit d'ailleurs, on va détailler les rapports horizontaux et la question du marché, mais il le dit assez simplement, je sais pas, mais en disant que le marché présuppose les classes, ou encore que la valeur présuppose la classe, mais la classe ne présuppose pas la valeur. Enfin, ça revient à ce que tu as dit justement, en se positionnant aussi par rapport à tout le courant de la critique de la valeur, etc. Donc ces rapports horizontaux, justement, alors ils ont deux chapitres, parce que il va l'étudier d'abord, on va dire, dans le circuit de circulation et de production simple, et puis ensuite à une échelle plus élargie avec la notion de concurrence, et pour arriver à une domination au niveau de la totalité sociale. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le plus simplement possible, peut-être, parce que c'est vrai que c'est des chapitres assez denses, ce qu'il entend par rapports horizontaux?
Là, il emprunte beaucoup à Brenner, et d'ailleurs, c'est compliqué d'ouvrages aussi synthétiques et clairs, de les synthétiser, la synthèse, et de maintenir ce niveau de clarté, mais je vais tenter le coup. Donc, ces rapports horizontaux, c'est ceux de la valeur et de la concurrence, à des niveaux d'abstraction différents. Ça part du constat assez simple, hein, que Marx fait déjà, que dans la société capitaliste, la production, elle n'est pas socialement coordonnée à travers un plan conscient, mais à travers l'échange entre unités de production séparées, et dont le travail est dépensé et actualisé de manière privée, et dont la validation sociale, c'est-à-dire de savoir si le travail a produit, en l'occurrence une marchandise, qui va satisfaire ou non des besoins de d'autres individus ailleurs dans la division du travail, ce n'est connu qu'après coup. Et ça oblige les producteurs à se rapporter les uns aux autres sous la domination de cette forme valeur, c'est-à-dire que c'est la forme valeur, dans son existence la plus simple, les signaux de prix, qui indique au producteur s'il a réussi ou pas à valider le travail socialement. Et c'est ce qui induit une première forme des rapports horizontaux et des contraintes qui vont avec, c'est celle de la compétition. Et du coup, dans cette vision-là, le marché ne transmet pas que des signaux de prix et des informations, mais bien des contraintes. Et là, Mao, il se distingue complètement de la tradition classique des théories du marché. Et qui oblige donc les différents unités de production et les producteurs privés, qui sont évidemment des capitalistes, donc on ne parle pas de petits producteurs indépendants, qui les oblige donc évidemment à réduire leurs coûts, augmenter la productivité, extraire le plus de plus-value possible. Et là, ça rejoint un premier niveau où rapport verticaux et horizontaux se lient, c'est que cette concurrence, elle existe aussi chez les prolétaires. Mais elle n'est pas la même. Donc même les rapports horizontaux, la manière dont ils s'exercent sur tout un chacun, sur tous les individus qui composent le mode de production capitaliste, elle est différenciée en fonction de son appartenance ou sa place sociale dans les rapports verticaux qu'on a précédemment évoqués. Et donc, la concurrence a un effet complètement différent, c'est-à-dire que chez les prolétaires, elle crée une concurrence acharnée entre eux pour obtenir les jobs qu'il y a sur le marché, pour accéder à la qualification, on connaît tout ça, et c'est aussi là où le marché exerce une forme de contrainte sur les prolétaires en tant que prolétaires qui dépassent ce qu'ils peuvent subir comme domination immédiate dans le lieu de production, la discipline, les cadences, etc., mais qui est vraiment la survie. Et dans un deuxième temps, de l'autre côté de la barricade, pour ainsi dire, la concurrence, elle a un effet d'unification chez les capitalistes. Emma reprend cette idée des frères ennemis que Marx développe aussi déjà dans le livre 3, c'est-à-dire que la concurrence chez les capitalistes, c'est la concurrence pour l'appropriation d'un même pool de surtravail ou de survaleur qui a été produit par les prolétaires, à travers le mécanisme de péréquation ou de profit, on n'est pas obligé de revenir là-dessus, mais ça les rend complices d'une même exploitation. Donc en cela, la concurrence n'a pas du tout les mêmes effets en fonction de la place dans les rapports verticaux.
Là-dessus, il dit que la concurrence renforce le pouvoir de classe du capital, c'est-à-dire que là où pour le capitaliste individuel, l'autre capitaliste est... C'est ce que tu disais, il y a un frère ennemi, il le voit pas comme un frère, mais du coup un ennemi et un concurrent à dépasser, à qui il faut prendre des parts de marché, du point de vue global de la totalité sociale, la concurrence renforce le pouvoir des capitalistes au sens large, même si individuellement c'est pas vu comme tel. Là où pour les travailleurs, c'est que concurrence des uns.
Et il va jusqu'à dire cette idée qui est assez forte, je sais pas si c'est lui, je me souviens pas si à ce moment il cite quelqu'un d'autre, mais qui est aussi une espèce de provocation contre la disparition de la classe dans certaines théories de la valeur. Il va jusqu'à dire, non seulement le capitalisme est une société de classe et on ne pourrait pas le comprendre sans le penser comme tel, mais en plus c'est la seule, et c'est la première véritable société de classe historiquement. C'est-à-dire que une différence énorme dont se noue le rapport d'exploitation dans le capitalisme, c'est que, contrairement à d'autres modes de production antérieurs, le prolétaire particulier, pour assurer sa survie puisqu'il n'a pas accès à ces conditions de la reproduction de son existence, il est obligé de se vendre sur le marché au premier capitaliste venu et qui acceptera d'acheter sa force de travail. Donc, il est en permanence soumis à l'ensemble de la classe capitaliste. Il peut fuir un capitaliste particulier, mais il ne peut pas fuir la classe capitaliste dans l'ensemble, puisque c'est elle qui détient collectivement les moyens de production et les moyens de subsistance, ou l'accès aux moyens de subsistance, à travers le salaire. Donc, pour lui, il y a même cette idée que c'est la première domination de classe en tant que classe. Et il parle même d'une domination impersonnelle de classe, et donc il essaye de garder le meilleur de l'hypothèse ou de l'intuition qu'on retrouve chez Poston ou chez d'autres, que le capitalisme est avant tout une domination impersonnelle, c'est-à-dire que le caractère privé et particulier de l'individu n'est pas ce qui régule la capacité à exercer la domination, on n'est pas dans une société de caste ou d'ordre. Mais en revanche, la soumission ou la dépendance à la classe à travers le rapport d'exploitation, il est généralisé, c'est-à-dire que on dépend de l'ensemble de la classe capitaliste, quelle que soit la personne et l'interlocuteur immédiat qu'on a en face.
Dans cette deuxième partie sur les relations, en complément des rapports verticaux de classe et puis des rapports horizontaux entre producteurs indépendants et travailleurs indépendants, il consacre un chapitre à la question de la construction sociale du genre et de la race. Alors, je sais pas trop quoi dire de ce chapitre, vous pourrez compléter. Il fait un résumé d'un certain nombre de théories, mais aussi pour dire que finalement ça tombe pas trop dans son analyse à son niveau d'abstraction spécifique de moyenne idéale du capital. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment est-ce qu'il défend ça, et puis peut-être est-ce qu'on y voit une certaine limite, notamment par rapport à la suite du livre?
Moi, je pense que c'est un peu un chapitre forcé, et moi qui est par ailleurs, je prends très au sérieux aussi les théories siennes et les théories matérialistes et marxistes de la reproduction et féministe sur la question des rapports sociaux de sexe, etc. C'est un peu un chapitre un petit peu décevant. Puis aussi, même, je prends au sérieux la question du racisme, et en fait, là, on a dans un chapitre, le chapitre 7, regroupé les rapports de domination de genre et de race. Il va parler du fait que il y a un extérieur nécessaire à la valeur, et donc la reproduction de la force de travail, elle est extérieure mais nécessaire à la circulation de la valeur. Et donc ça, il a lu ce qu'il fallait lire, il a lu Vogel, il a lu Federici, donc il intègre ça. En revanche, donc, il va un peu se poser la question de la centralité de la catégorie de genre. Est-ce que vraiment cette reproduction doit nécessairement en passer par les femmes? Bon, ça, il questionne en fait la nécessité du mot femme ou du nom femme dans la reproduction externalisée de la force de travail. Donc, il se positionne par rapport à Liz Fogel, qui, selon lui, ne questionne pas suffisamment en fait cette catégorie essentielle ou biologique de la femme. Mais comme ça va un peu rapidement, on reste un petit peu sur notre faim. Et du coup, ça se conclut quand même sur le caractère exploitable des différences. Le fait que dans les rapports sociaux horizontaux, le capital et les capitalistes vont exploiter le plus possible toutes différences et distinctions qui peuvent être faites parmi les prolétaires pour profiter de ces logiques de concurrence entre eux. Il revient aussi à comment, en fait, ça a toujours été le cas, que quand, je sais pas, les Irlandais étaient une population racialisée par les Anglais et qu'il y a des fortes immigrations, bah, le capital exploite énormément la haine qu'ont les travailleurs anglais pour les travailleurs irlandais et que, du coup, ces processus de différenciation, de racialisation au sein du capital, ils existent depuis très longtemps. Donc, voilà, c'est, je sais pas s'il y a d'autres choses.
Ça lui donne peut-être juste l'occasion de faire une petite excursion plus politique. C'est que, en gros, lui, ce qu'il reproche aux théories qui essayent de, puisqu'on parlait de moyenne idéale et de cette question des degrés d'abstraction, lui, il dit que, pour son objet tel qu'il le déploie, le capital et sa logique, ces catégories-là, elles ont pas leur place, quelque part dans la démonstration, elles se jouent ailleurs et à un autre niveau, voilà, on peut, de manière assez indéterminée par les différences, mais expliquer pourquoi c'est le genre ou la race qui joue le rôle de cette différence, c'est pas en dépliant la logique du capital qu'on va trouver la réponse. Et, là où il y a quelque chose de pas inintéressant, c'est que ça le conduit à dire que les théoriciennes et théoriciens qui essayent de faire remonter la race ou le genre à ce niveau d'abstraction-là, et le faire vraiment dépendre ou dériver de l'accumulation, en fait, ils sont mus par une préoccupation politique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on aura une théorie unitaire qu'on produira une lutte unitaire, quelque part. Et que du coup, c'est parce qu'on montrera que, finalement, les luttes antiracistes ou les luttes féministes sont aussi des leviers anticapitalistes, quelque part, alors ça les justifie aux yeux et au regard de nos camarades marxistes, c'est un peu ça. Et lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de déconstruire ce lien de nécessité qui est établi entre les deux en disant « La théorie, à ce niveau d'abstraction logique, elle n'a pas de prétention à faire des comment dire ?»
Il dit qu'il n'y a pas une implication de la théorie abstraite vers la stratégie politique. On ne peut pas déduire les choses
que la hiérarchie des catégories
à partir de là.
La hiérarchie des catégories n'est pas la hiérarchie des priorités, n'est pas l'ordre de priorité, et que donc les luttes féministes ou les luttes antiracistes ne devraient pas avoir à se prévaloir d'une espèce de priorité ou de primauté logique et théorique pour justifier leur simple existence. On pourrait voir ça comme un espèce d'échappatoire, mais c'est aussi assez rigoureux de sa part de dire je ne produis pas un traité politique de stratégie. Et donc, cette question, elle a sa place ailleurs. Par rapport aux tentations qu'il existe chez d'autres théoriciens dans ce genre de courant, de dériver toutes les catégories, alors la dissociation de valeurs qui explique le genre, potentiellement la race, enfin, de dériver en permanence toutes les catégories d'un noyau logique et synthétique que serait l'accumulation du capital, produit plein de problèmes politiques, et c'est ça qu'il essaye aussi de mettre en lumière à la fin de ce chapitre-là.
En fait, il dit il y a une différence entre des luttes. Les luttes ne sont pas pures, alors que là, on essaye effectivement d'arriver à un niveau d'abstraction très élevé quant aux tendances fondamentales. Et donc, pour lui, c'est pas parce qu'on peut pas démontrer que le racisme est une sorte de présupposition nécessaire à la production capitaliste que le racisme n'est pas une chose qui va s'immiscer, être importante dans le lutte, à discuter, stratégiquement importante. Donc oui, c'est vrai qu'il est assez humble sur cette question et que en fait, on voit la différence entre ce qu'il essaye de faire, qui n'est pas un traité politique ou un pamphlet politique, et qui est une compréhension d'une moyenne idéale, qui va donc ne pas s'intéresser à toutes les dimensions d'une formation sociale, en fait. Précisément, une formation sociale, c'est bien plus que aussi son mode de production. D'ailleurs, on se rappelle, il enlève quand même toute la dimension coercitive de l'État idéologique. Je veux dire, comprendre en fait les dominations de genre ou de race, ça implique quand même d'avoir une théorie encore plus fine sur l'État, en fait, pour le coup, ou sur les reproductions idéologiques du genre, par exemple. Donc voilà.
D'ailleurs, ça permet de préciser que c'est pas parce qu'il traite pas d'idéologie et de la violence qu'il considère que ça n'existe pas comme mode de domination.
Ça, il le répète souvent.
C'est juste que c'est, en effet, c'est pas son objet. Bon, en fait, il y a deux choses qui me sont venues en tête en lisant ça. Alors, j'étais assez convaincu aussi de prime abord par le chapitre en me disant bah ok c'est pas son projet. Là où ça m'a fait bizarre, c'est, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est que dans la dernière partie il va un peu plus dans le concret sur la subvention de la nature, l'agriculture, la logistique. Je me suis dit bon, il a choisi de pas aller peut-être plus dans le concret sur les la question du genre et de la race. Après, bon, pourquoi pas, mais ça m'a fait bizarre à ce niveau-là, parce que la moyenne idéale prend quand même un tour un peu plus concret sur la dernière partie, donc ça, c'était a posteriori. Et après, l'autre chose, alors, moi, c'était en lisant, par contre, ce dont on parlait tout à l'heure sur l'organisation corporelle, les outils, etc., que j'ai repensé à une émission qu'on avait fait sur Paola Tabet et la question de l'accès aux outils, etc. Et là, pour moi, il y avait un lien...
C'est très intéressant, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que on pourrait se dire que, effectivement, en revenant à la question de l'humanisme et du rapport, enfin, de l'organisation corporelle de l'humain dans cette ontologie sociale, est-ce que c'est pas un petit peu problématique de retourner à l'anthropologie pour ne pas du tout se demander quelle est la différence d'accès aux outils et comment elle structure de manière assez fondamentalement différente les sociétés, mais aussi peut-être en privant souvent les femmes de certains outils, où il y a des théories qui montrent que le patriarcat est plutôt fondé sur le fait que les femmes ne s'approprient jamais, non pas les outils, mais les armes, en fait. Et du coup, ça, c'est vrai que on pourrait lui reprocher, dans cette volonté très abstraite d'avoir une théorie de l'ontologie sociale, de ne pas revenir suffisamment aux sciences sociales, là, pour le coup, et à d'autres théories marxistes, marxiennes ou matérialistes en anthropologie.
Donc, je vous propose de conclure cette discussion sur la deuxième partie par une synthèse via une lecture des mots de Zoran Mo lui-même, en fin de deuxième partie, qui fait, encore une fois, une synthèse très claire de ce qu'il a exposé jusqu'alors. Dans la tradition marxiste, il est courant de considérer le rapport d'exploitation comme la pierre angulaire du pouvoir du capital. Résumé brièvement, l'existence de l'exploitation est souvent considérée comme la preuve de l'existence des rapports de domination. Mais dans le capitalisme, en quoi consiste précisément l'exploitation ? L'exploitation est souvent comprise comme un rapport entre le capital individuel et ses employés. Ce que nous enseigne la théorie de la distribution de la sur-valeur, c'est que l'exploitation est un rapport qui se situe au niveau de la totalité sociale, c'est-à-dire que le travail est exploité par le capital en tant que tel, plutôt que par des capitalistes individuels. La formation du taux général de profit et la division du profit en rente, intérêts et profits d'entreprise impliquent que la sur-valeur produite par les travailleuses se retrouve distribuée partout au sein de la classe capitaliste et par le biais de l'impôt entre les mains de l'État. La concurrence est le mécanisme par l'intermédiaire duquel s'opère cette distribution. Elle est donc le mécanisme par l'intermédiaire duquel la relation d'exploitation est élevée au rang de rapport dans la totalité sociale. La concurrence devrait donc être comprise comme l'un des mécanismes du pouvoir économique du capital. Il s'agit d'une forme de domination abstraite, universelle et impersonnelle, à laquelle tout un chacun est assujetti. La nature idéologique des notions bourgeoises de libre concurrence, de libre commerce ou de marché libre apparaît ainsi clairement. Le marché n'a jamais été la forme d'existence absolue de l'individualité libre. En fait, le marché ne peut jamais être libre, à moins que l'on entende par là la liberté du capital. Il y a trois dimensions à cette non-liberté du marché. Premièrement, une certaine forme de domination de classe est nécessaire pour garantir que les travailleurs se présentent sur le marché comme vendeurs de leur force de travail. Autrement dit, le marché est non libre parce qu'il présuppose la domination. Nous avons montré que cette absence de liberté dans le marché est plus profonde que cela. Non seulement le marché capitaliste repose sur des rapports de domination, mais il n'est lui-même rien d'autre qu'une forme de domination. C'est la deuxième dimension de la non-liberté du marché. La concurrence possède la même fonction que celle exercée par la violence lors de la création originaire du capitalisme, et la concurrence fait partie intégrante de la contrainte muette des rapports économiques. Mais ce n'est pas tout. Comme nous l'avons déjà évoqué, les travailleurs ne sont pas seulement dominés avant d'entrer sur le marché et pendant qu'ils s'y trouvent, ils sont aussi subordonnés au pouvoir du capital après qu'ils en soient sortis, lorsqu'ils pénètrent dans l'entre-secret de la production. C'est la troisième dimension de la non-liberté du marché. La concurrence est une forme de pouvoir qui transcende les classes, qui non seulement présuppose la domination de classe, mais qui la renforce et l'intensifie aussi, car elle oblige le capitaliste à discipliner et à soumettre les travailleurs au sein de la sphère de la production.